Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Avant Hillary Clinton, bien avant même, elle fut la première femme candidate à la présidentielle américaine en 1872. Une femme forte qui avait à cœur de défendre ses idéaux, dont celui de l'amour libre. Je vous raconte maintenant Victoria Woodhull. Rien n'est plus destructeur que les relations sexuelles exercées habituellement et sans consommation parfaite et réciproque. Ces mots semblent d'actualité tout droit sortis d'un cours d'éducation à la sexualité ou d'un commentaire d'une récente affaire. En réalité, ils ont été prononcés il y a plus d'un siècle et demi par une pionnière. « À bas le devoir conjugal, vive le plaisir partagé !» Elle affirme sans honte que le jour où les femmes régleront sur leur désir le moment des relations sexuelles, les hommes devront s'effacer et se contenter d'être les serviteurs là où ils ont été si longtemps les maîtres. Son discours est très audacieux, même les féministes de l'époque la jugent scandaleuse. Mais l'audace semble avoir guidé sa vie. Envers et contre tous, Victoria Woodhull sera la première femme à se présenter à l'élection présidentielle américaine, alors même que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Victoria Claflin voit le jour en septembre 1838 dans l'Ohio. Son père est un escroc qui vit de trafic de chevaux, de magouilles de poker et de la vente de potions miraculeuses. Lorsque la justice ou les voisins sont à ses trousses, il déménage et emmène sa petite tribu avec lui. Son truc, c'est de surfer sur les tendances pour s'en mettre plein les poches. Vient alors la mode du spiritisme. Tout commence un soir de mars 1848 dans un hameau perdu de l'État de New York. Au beau milieu de la nuit, les sœurs Fox sont réveillées par des bruits étranges. « Esprit, es-tu là ?» Il faut croire que oui. Leur ferme est hantée, elles en sont sûres. Quelques mois plus tard, les voilà devenues médiums et à l'origine d'un véritable phénomène de société. Le spiritisme fera pas moins de 2 millions d'adeptes à une époque où les États-Unis ne comptent que 25 millions d'habitants et s'exportera en Europe. Les adeptes du mouvement, les spirites, communiquent avec les défunts. Mais ils ne s'intéressent pas qu'à l'au-delà. Dans le monde actuel, ils font campagne pour le socialisme, la réforme du travail, les droits de l'enfant, l'abolition de l'esclavage ou encore le vote des femmes. Ces sujets l'intéressent. Victoria se lance dans l'aventure avec sa sœur cadette, Tennessee. Son don pour la voyance l'amènera même à être élue présidente de la National Spiritualist Association à 3 reprises. Son premier mariage la pousse dans la voie du féminisme. À peine adolescente, elle épouse un médecin alcoolique qui a le double de son âge et la trompe allègrement. Canning Woodhull. À 25 ans, Victoria garde son nom mais se remarie avec un colonel vétéran de la guerre de Sécession. L'Amérique sort à peine du conflit le plus meurtrier de son histoire. La jeune République a besoin de fondations stables et tente de préserver le lien social traditionnel en vantant les mérites du système patriarcal. Victoria Woodhull s'affranchit des convenances. Elle prône l'amour libre, c'est-à-dire le libre choix des partenaires, le droit au divorce et surtout le désir partagé. Résultat, la presse la surnomme la scandaleuse, la reine des putes et même Madame Satan. La référence à la sorcellerie n'est jamais loin. Voilà ce qui arrive quand on s'affranchit des mœurs traditionnelles de l'époque victorienne. Un jour, les deux sœurs font la connaissance de Cornelius Vanderbilt. Ce vieil excentrique de 76 ans est l'un des hommes les plus riches du pays. Féru de spiritisme depuis la mort de son fils, il fait appel au service des jeunes femmes, ce qui lui permet surtout de tirer son épingle du jeu lors d'un effondrement spectaculaire du marché de l'or. En guise de remerciement, il propulse les sœurs à Wall Street. Le 19 janvier 1870, elles deviennent les premières femmes de l'histoire américaine à exercer la profession de courtier en bourse, ou devrais-je dire courtière. Grâce à l'argent gagné à New York, Victoria et Tennessee fondent ensuite le Woodhull & Claflin's Weekly, un journal qui atteint les 100 000 exemplaires. Elles y publient la première traduction aux États-Unis du manifeste du Parti communiste. Pionnière, Victoria Woodhull l'est aussi en devenant la première femme à se lancer à l'assaut du Congrès. Le matin du 11 janvier 1871, elle s'y rend pour lire devant la commission juridique une pétition demandant le droit de vote des femmes. Dans son discours, elle tranche avec les requêtes habituelles puisqu'elle rappelle que ce droit est déjà inscrit dans la Constitution américaine. Elle demande toutefois un nouvel amendement pour que ce droit ne leur soit pas renié. Sa performance est un succès. Son éloquence subjugue autant que sa rare beauté. Elle arbore une coupe très courte avec de belles boucles rousses qui encadrent son joli visage. Un charme maléfique pour ses détracteurs qui la traitent de sirène et d'ensorceleuse. Ce même jour, dans l'après-midi, s'ouvre le congrès des suffragettes. En robe sombre et cravate bleue, Victoria fait une entrée fracassante. Un peu trop finalement pour son public, la National Woman Suffrage Association. Les féministes qui militent pour le droit de vote des femmes la jugent trop provoque. La plus grande provocation de Victoria Woodhull, c'est de dénoncer dans son journal l'adultère du pasteur Henry Ward Beecher. Elle révèle que le prêcheur, qui réunit 3000 admirateurs chaque dimanche, est un vilain menteur. Autoproclamé juge de la moralité, il s'adonne en réalité à l'amour libre et fornique même avec la femme de son meilleur ami. Le scandale est énorme. C'est l'hypocrisie des mœurs victoriennes qui est mise en lumière. Les procès qui s'ensuivent sont retentissants. Même la destitution du président Andrew Johnson n'a pas autant d'écho dans la presse. En parlant de présidence, justement, Victoria Woodhull a une idée folle. Briguer le plus haut poste de la Maison-Blanche. Elle est la première femme à postuler et prend pour coéquipier à la vice-présidence un candidat noir, Frederick Douglass. Une femme et un ancien esclave en lice, en voilà un duo détonnant. Dans sa campagne pour la présidence, Victoria Woodhull se retrouve assez isolée. Son colissier se désiste. Les féministes lui reprochent de se servir du mouvement pour faire la promotion de l'amour libre. Mais Victoria veut seulement se faire entendre. Elle sait bien qu'elle ne sera pas élue. Elle n'en a même pas l'âge. Elle n'a que 34 ans au moment de l'élection et la Constitution impose que le président en ait au moins 35. Le 2 novembre 1872, Victoria Woodhull est arrêtée par un agent spécial fédéral de la moralité publique pour avoir publié et envoyé par la poste des écrits jugés, je cite, « obscènes ». Elle est envoyée en prison avec celle qui partage ses idées et désormais sa cellule, son seul soutien indéfectible, sa sœur Tennessee. Elle y est encore le jour de l'élection, plutôt de la réélection du républicain Ulysses Grant le 5 novembre. Contre toute attente, Woodhull aurait malgré tout obtenu quelques 5% des voix, alors que, rappelons-le, les femmes n'ont pas encore le droit de vote. 5% symbolique surtout, puisqu'officiellement, n'ayant pas l'âge requis, les bulletins où son nom est inscrit n'ont pas été décomptés. Fatiguée par son passage en prison, lâchée par les suffragettes, Victoria préfère s'embarquer pour l'Angleterre. Là-bas, après un combat acharné pour la liberté, elle finit par succomber à la pression sociale. Mariée à l'un des banquiers les plus riches du pays, elle sombre pas dans la dépression, mais pire, dans le conformisme. Menant une vie de châtelaine dans le comté de Worcester, elle ne parle plus jamais de l'amour libre. Quand on lui en parle, elle renie même certains de ses discours et déclare respecter les liens du mariage. Difficile de croire que c'est elle qui affirmait il y a quelques années « Je ne connais qu'un bonheur supérieur à celui de commander au monde, c'est celui de n'obéir à personne ». Elle continue son combat autrement, puisqu'elle fonde une école dans le village où elle vit et s'adonne à la philanthropie. À la mort de son mari, Victoria Woodhull récupère la totalité de ses biens et se consacre à sa nouvelle passion, les automobiles. Elle conduit à vive allure à travers les plaines vertes du Worcestershire jusqu'à sa mort à presque 90 ans, en juin 1927. Entre-temps, la course effrénée des féministes vers le droit de vote s'est terminée. Les Américaines l'ont obtenu en 1920 lors de la ratification du 19e amendement de la Constitution. Les historiens mettront en lumière les suffragettes. Victoria Woodhull, elle, était trop scandaleuse pour l'Amérique puritaine. En avance sur son temps d'au moins un siècle et demi, elle est tombée dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.